Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
De frères, tu portes la souffrance de ceux qui ont faim, qui sont seuls, qui sont méprisés. Pardonne notre dureté de cœur et fais-nous la grâce d'une vraie compassion, car tu es mort pour tous les hommes, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
Psaume 38.
Oh, Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. Arrivé à Jérusalem, Saul essayait de s'agréger aux disciples, mais tous avaient peur de lui, n'arrivant pas à le croire vraiment disciple. Barnabas le prit alors avec lui, l'introduisit auprès des apôtres et leur raconta comment sur la route il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il s'entretenait avec les hellénistes et discutait avec eux, mais eux cherchaient à le faire périr. Les frères, l'ayant appris, le conduisirent à Césarée et de là le firent partir sur Tarse. L'Église, sur toute l'étendue de la Judée, de la Galilée et de la Samarie, vivait donc en paix. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. Et grâce à l'appui du Saint-Esprit, elle s'accroissait. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous poursuivons notre cheminement à rebours, après acte 11, acte 9. Évidemment, avec un sujet comme celui qui m'a été demandé, je suis allée chercher où il était dit qu'une communauté ou que l'Église était en paix. Et c'est dans acte 9, il est dit « L'Église était donc en paix ». Alors, je me suis demandé, quel est ce donc ? Pourquoi donc ? Qu'est-ce qui fait que, logiquement, on nous dit que l'Église est en paix ? Et donc, en travaillant ce texte, en priant sur ce texte, je me suis souvenue de ce que j'ai vécu, nous étions plusieurs, à Accra, au Ghana, avec le Forum chrétien mondial. Et là-bas, nous avons rencontré une jeune femme, prêtre anglicane, je crois, d'Afrique du Sud. Et elle nous a rendus attentifs dans ce texte à plusieurs points. Donc je vais m'inspirer d'elle, c'est pour ça que je voulais vraiment la citer, m'inspirer d'elle, mais je vais me détacher aussi à certains moments. Et en particulier parce qu'il y a ce lien avec la paix. Moi, je n'avais jamais remarqué, c'était pourquoi l'Église est donc en paix. Pourquoi donc ? Alors, que se passe-t-il dans cette communauté ? Nous retrouvons Barnabas, et cette fois-ci, Barnabas et Saul. Deux personnalités, il nous est parlé de deux personnalités dans une communauté. Qui sont-ils ? Les deux vont être choisis, mis à part, c'est un peu plus loin, et les deux vont travailler ensemble à la mission. Mais alors, quel est ce duo pour la mission ? Quel est ce duo dans la communauté ? J'ai essayé de voir, est-ce que c'est à cause de cela qu'on dit « l'Église, donc, était en paix ?» Alors, une fois de plus, alors je ne sais pas si c'est moi en ce moment, mais, ou si c'est l'âge, mais je m'émerveille de plus en plus quand je lis la Bible, parce que je vérifie à quel point il n'y a pas de texte idéalisé, il n'y a pas de belles histoires qui finissent toutes bien, mais la Bible nous transmet des textes et des histoires pleines d'humanité. Les difficultés, les échecs, les tensions ont leur place. Et en fait, elles sont très présentes ici. Je reviens donc à Barnabas et Saul. Il y a entre eux des différences telles que la mission ne va pas être facile. D'ailleurs, ils vont se séparer en acte 15. Vous voyez, les histoires bibliques ne finissent pas toutes bien. Mais elles enseignent un certain réalisme et humilité peut-être. En tout cas, Cet attelage, ce duo très spécial, n'empêche pas l'Église d'être en paix. Mais je vous propose de regarder tout simplement ce duo. Puis après, nous verrons qui les a mis ensemble. On peut dire que nous sommes en face au moins d'une dizaine, si on regarde le duo, une dizaine de tensions, une dizaine de différences qui peuvent vraiment être irréconciliables dans une communauté. Donc de même que ce matin, nous avons regardé ce qui n'allait pas vers l'idéalisation, ben là, je vous propose de regarder à nouveau des tensions. Tout d'abord, leur expérience, elle n'a rien à voir. Barnabas était un chrétien de longue date, un croyant avec de l'expérience. Saul, quant à lui, c'est un nouveau venu, un converti récemment qui a persécuté les chrétiens. Donc là, on peut dire problème d'antécédent du passé. Problème d'antécédent, problème de passé. Deuxième tension, leur place. Barnabas est cité en premier dans la description des prophètes et des hommes chargés de l'enseignement d'Antioche. Vous pourrez vérifier acte 13, verset 1. Saul est cité en dernier car il est arrivé tout récemment. Mais assez vite, ils vont être cités en sens inverse. Paul et Barnabas, et non plus Barnabas et Saul. On peut sentir poindre un petit conflit, tension de place. Troisième tension, leur conversion. Barnabas a vécu une conversion très ordinaire, elle n'est même pas décrite, même pas racontée. Mais il est quand même bien dit qu'il est rempli d'Esprit Saint. Saul, tout le contraire, a eu une conversion spectaculaire. Il en est tombé de sa monture, il ne voyait plus avant de retrouver la vue. On peut dire une expérience avec l'Esprit Saint, une expérience charismatique bien différente entre tous les deux. Quatrième tension, leur origine. L'un porte un nom juif, Bar-Nabous, c'est fils de Nabous, fils d'encouragement. Saul porte à la fois un nom juif, Saul, et un nom grec, Paul, car il a une double nationalité dans l'Empire romain. On peut dire qu'il a une double identité. Et ces différences d'identité peuvent véhiculer à un moment donné des préjugés entre eux. Cinquième tension, leur formation ou leur éducation, rien à voir. Barnabas a été élevé dans la patrie juive, avec une culture juive. Saul était originaire, lui, en dehors de la patrie, dans la culture grecque et romaine, bien que juif. C'était un homme vraiment interculturel. Mais on peut sentir poindre des différences théologiques importantes, ou en tout cas des problèmes culturels qui peuvent survenir. Encore une tension, leur langue. Barnabas parlait l'araméen, la langue de Jésus et des disciples, des apôtres. Saul, bien sûr, mais il parlait beaucoup plus couramment le grec. Il était donc bilingue, lui. Alors, aussi, petit problème linguistique un jour, point d'interrogation. Leur mode de fonctionnement, enfin. Barnabas était généreux, il vendait ses biens, il donnait le produit à la vente de la communauté des croyants. Vous allez voir ça dans acte 4. Donc ça, c'était son fonctionnement. Saul, lui, était zélé. Il parle même de son zèle à persécuter l'Église, Philippiens 3. Donc il y a un choc quand même des modes opératoires. C'est une possibilité réelle, là, ce choc des modes opératoires, hein, qui est dans l'encouragement, le soutien, et l'autre qui a un zèle passionné. Leur personnalité, comme je viens de le dire, Barnabas était plein d'encouragement pour les autres, comme son nom l'indique. Il s'émerveille des autres. Il soutient dans la vocation. Saul, lui, c'est un militant. Militant dans sa persécution de l'Église avant sa conversion, mais ce sera un militant après aussi, pour proclamer l'Évangile après sa conversion. Donc, un conflit de personnalité est bien possible. Ensuite, leur attitude envers les autres. Barnabas ne portait pas de jugement sur les autres. On le voit ici, il prend Saul sous son aile. Il le présente aux apôtres de Jérusalem. Ceux-ci craignaient la réputation de persécuteur de Paul. Mais Barnabas Paris fait le pari sur Saul. Il se porte garant de lui. Jusqu'à se permettre que Saul, il est dit, allait et venait avec eux. Barnabas va jusqu'à faire en sorte que Saul soit le plus intégré possible. Je le redis parce que ce matin, il était question de prendre soin et des gestes pour prendre soin, pour intégrer. Paul est plus dans une posture conflictuelle, comme en témoigneront ses écrits et ses actes. Plus tard, il va même traiter Barnabas d'hypocrite lorsqu'ils vont avoir un conflit et se séparer. Donc il y a bien des attitudes fort différentes face aux situations. Mais je continue, ça n'est pas fini. Leur don spirituel, enfin. Barnabas n'est pas du tout connu pour avoir les dons d'élocution, les mêmes que ceux de Paul. Alors que Paul était un orateur brillant, éloquent, qui savait débattre, un défenseur de la foi et un très bon écrivain. Là aussi, comparaison et jugement auraient été possibles, sont possibles d'ailleurs, ça va venir un peu plus loin. Barnabas est décrit comme un pasteur, prophète, Saul un enseignant. Enfin, leur style de leadership, leur style de gouvernance. Barnabas, c'était un leader d'arrière-plan. Il a introduit Paul, puis il se retire, il se met en arrière-plan. Paul, quant à lui, est leader de premier plan. Il l'est en raison de ses dons, de son caractère. Il l'est, il le reste. Donc vous allez me dire, ben vraiment comme commentaire, à part avoir fait une description de ce qu'on a lu, mais encore faut-il oser lire ce texte ainsi et bien voir ces deux personnalités. Et l'une qui n'a pas peur d'être dépassée par l'autre et de l'introduire jusqu'au bout, d'être intégrative, inclusive. Alors que Barnabas a très probablement compris ce qui allait se passer ensuite avec Paul. Que cette incompatibilité allait probablement un jour venir. Qu'est-ce qui permet de vivre cela? Parce que dans toutes nos communautés, nous avons ces conflits de personnalité. Je ne connais pas une seule communauté, je ne connais pas toutes les communautés évidemment, mais je n'en connais pas qui n'ait pas vécu ce genre de conflit de personnalité. Alors, je me suis posé la question, qui est à l'origine de ce duo? Qui est à l'origine d'un tel assemblage? Eh bien, en fait, en acte 13, il est dit que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les a mis ensemble. Alors, le Saint-Esprit serait-il insensé? Je me suis demandé ce qu'il y avait à entendre pour nos communautés, en tout cas pour la mienne. Et l'appel que j'entends, c'est de ne pas minimiser nos différences. C'est assez banal de le dire, de ne pas les minimiser et de les voir vraiment comme un lieu où nous devons nous convertir. Jusque-là, c'est encore assez banal et flou. Mais quelle est cette conversion? C'est ça la question. Quelle est cette conversion? Sur quel point devons-nous travailler pour que finalement, malgré tout ça, malgré ce curieux assemblage, le texte se termine, l'Église était donc en paix. Eh bien, cette conversion, je vous propose tout simplement celle-ci, c'est travailler sur nos différences de plusieurs manières. D'abord en nous émerveillant, c'est ce qu'a fait Barnabas ce matin, pas avoir peur de nous émerveiller de ce qui est différent chez l'autre, mais oser dire que c'est bon. Travailler sur ces différences pour que, jusqu'au moment où elles ne sont plus séparatrices, où elles ne me font plus peur, mais tout simplement, travailler sur ces différences pour qu'elles disent la diversité voulue par Dieu. Qu'elles disent la diversité. Autrement dit, faire de nos différences des lieux habitables, des lieux hospitaliers. Certes, nous pouvons, c'est inévitable, nous pouvons nous blesser les uns les autres, les unes les autres, par nos différences. Mais la guérison peut aussi venir des uns des autres, des unes des autres. Et nos communautés peuvent être des lieux, des signes, fragiles, vulnérables, mais de paix quand même, si peu à peu, à certains moments au moins, elles donnent à voir que les différences, aussi complexes que celles qu'on vient de voir entre deux personnalités dans la gouvernance, eh bien que ces différences deviennent des lieux habitables, hospitaliers, qui ne me menacent plus, mais qui même permettent que je sois dans l'action de grâce pour qui est l'autre. Alors peut-être, il y aura cette fameuse question finale, conclusive. L'Église, la communauté, était donc en paix.
sur leurs mains te porteront.
Pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. Prions le Christ, le Seigneur, fidèle en son amour pour tous les hommes. Jésus, nous te prions. Pour ceux qui consacrent leur force à secourir leurs frères et leurs sœurs, Jésus, nous te prions. Quand tu les rappelles de cette terre, Jésus, nous te prions.
Dans la paix, prions encore le Seigneur. Reste avec nous, Seigneur de miséricorde. Nous n'avons que peu de force, mais tu nous as confié ce monde. Avec toi, nous voulons veiller et vivre comme tes enfants, pour que la face de la terre sois changé. Entre toi et nous, il y a cet accord. Aimer avec toi la terre. Aimer avec toi l'humanité. Qu'à la fin de ce jour, des hommes et des femmes, des enfants, cessent d'être dans la douleur, qu'ils se reposent et se mettent à espérer. Qu'à tous les horizons du monde, il voit s'allumer des points de lumière. Jésus, prince de la paix, au cœur de notre aujourd'hui, pour nous-mêmes et pour le monde. Nous croyons en toi. Confiance, Seigneur, nous te prions encore. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Après les épreuves de son amour, le Seigneur.
Dieu de la paix nous rende capables d'accomplir sa volonté en toutes sortes de biens, produisant en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire, pour les siècles des siècles. Thank you.